J'avais envie de juste vous relire ce texte et surtout les conséquences que cela a eues d'une façon très directe. Et on reviendra sur le parcours missionnaire de Paul. Voilà, c'est toujours une affaire missionnaire, l'œuvre de Dieu. Et dans l'évangile de Marc, je lis pour vous au chapitre 16 et au verset 15, c'est l'ordre de mission, c'est l'engagement, ça se résume à ça l'évangile, en tous les cas, pour qu'il soit connu. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Pas mal d'historiens ou en tous les cas de chercheurs ont essayé de comprendre l'implication entre traduction de la Bible et évangélisation. Est-ce que c'est l'évangélisation qui a poussé à traduire la Bible ou est-ce que c'est la Bible qui, traduite, a suscité l'évangélisation? Et les deux sont tellement bien imbriqués qu'on se rend compte que le plus important, c'est le message. C'est le message, qui véhicule la vie, c'est le message qui véhicule cette belle espérance. Et quoi de plus beau message, quoi de plus belle nouvelle que la bonne nouvelle de l'Évangile? Et si cet après-midi, on est encore là pour parler de l'Évangile, c'est parce qu'on n'a pas trouvé mieux. En arrivant ce matin, je suis arrivé un petit peu tôt et j'étais déjà en ville assez tôt, j'étais surpris de voir plein de gens dans la rue. Mais il était 7h30, 8h moins quart, je vois des gens qui marchent par ici, qui marchent par là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme ils allaient tous dans cette direction-là, je me suis dit, ouh, il doit y avoir un concours de boules pas loin. Ben c'est ça. Je suis passé devant la patinoire et juste à côté, il y avait plein de boulistes. Ils étaient en train de s'échauffer, tirer, pointer, etc. Les gens se sont levés tôt, hein, parce que pour eux, ils se sont dit, ouais, super journée, il y a un concours, il y a peut-être quelque chose à gagner, etc. Finalement, peut-être que ça fait une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois, comme ceux qui sont au JO. Ils ont su qu'ils étaient qualifiés, qu'ils allaient y aller. Ça, pour eux, c'est une bonne nouvelle. Mais vous en conviendrez, c'est quand même limité dans le temps. Déjà, tant mieux qu'il fasse beau, sinon les pauvres, ça aurait été un peu, ça serait tombé à l'eau pour le cas de le dire. Mais imaginez même, quand on parle des JO ou autres, certains vont peut-être gagner une médaille. Certains sont entrés dans la compétition hier et sont déjà ressortis. Pourtant, ils avaient reçu une bonne nouvelle. Vous êtes qualifiés, vous allez y aller. Donc, à quoi bon une bonne nouvelle si le résultat n'apporte pas grand-chose, pas très longtemps, pas très efficace? Je préfère une bonne nouvelle qui change complètement ma vie. Je préfère une bonne nouvelle qui transforme totalement, non seulement ma vie telle qu'elle est, mais quelque part qui est capable d'effacer toute la peine du passé et me conduire vers un avenir qui soit plus rayonnant, qui soit meilleur. Et c'est exactement ça le message de l'Évangile. Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Quelle est donc? Des malades guéris, des personnes angoissées, liées par quelques passions, par quelques liens, voire même possédées par quelque influence diabolique, délivrées, des vies totalement transformées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et moi, j'aimerais vous dire que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Alors, il est étonnant tout de même de se dire, mais pourquoi tout le monde n'y croit pas? C'est quand même étonnant. Pourquoi tout le monde n'y croit pas? Qu'est-ce qui fait que l'Évangile trouve tellement d'opposition, comme on l'a entendu? Pourquoi des gens vont s'opposer à une bonne nouvelle? Vous apportez la guérison, vous apportez la délivrance, vous apportez le réconfort, vous apportez non plus des nuits blanches, mais de belles nuits faites de plein de sommeil et pas de cauchemars. Vous apportez que des bonnes nouvelles. Pourquoi certains vont s'y opposer? Et qu'est-ce qui fait que finalement, certains sont d'une certaine manière à ce point indifférents? C'est surprenant. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous avez les premiers voyages missionnaires, très intéressants. En relisant En écoutant plutôt Romuald tout à l'heure et qui disait que la conversion amène un changement qui se voit, et d'où la difficulté quelquefois, en certains endroits, ça m'a rappelé un souvenir qui est vieux celui-là. Nous avions été en Bulgarie, dans une certaine région qui était très, très, très hostile et très fermée, non pas à toute forme de vie, mais presque. C'est-à-dire que ceux qui habitaient là n'aimaient personne, à part ceux qui habitaient là. Donc, quand vous veniez d'ailleurs, c'était excessivement dur de s'installer dans ce coin-là. En plus, un endroit un peu triste parce que on avait construit des centrales nucléaires tout autour de la grande ville. Centrales nucléaires gérées par la Russie à la Tchernobyl, vous voyez. Donc, de temps en temps, des messages passaient à la radio « Restez chez vous, ne sortez pas, ne respirez plus ». Ouais, il devait y avoir une fuite radioactive quelque part. Ce n'était pas très heureux. Et je me souviens avoir rencontré cet homme qui avait quitté une grande ville, plus dans le sud, et qui avait décidé d'aller vers le nord, donc dans cette grande ville de Vratsa, pour annoncer l'Évangile. Très peu d'églises, il y allait comme un missionnaire. Il quittait un endroit et une église où il y avait entre 700 et 900 membres. Et il s'est retrouvé dans cette grande ville où il n'y avait aucun chrétien, à part lui et sa femme et ses enfants qui avaient suivi. Alors, ils étaient tous musiciens dans cette famille. Régulièrement, ils allaient dans les villages alentours. Il emmenait tout son orchestre avec lui. Ils annonçaient l'Évangile. Mais ce qui l'a le plus surpris, c'est pas l'indifférence des gens. C'est pas cette espèce d'endurcissement, mais c'est la réaction immédiate des gens. Dans les premiers jours, ben, il a dû aller chercher du pain, il a dû aller à la supérette, à quelque endroit pour acheter à manger. Et quand il rentrait dans un lieu, quel qu'il soit, il disait bonjour. Bon, il ne le disait pas comme ça. Hein. Il le disait dans sa langue, « Dobr den ». Et les gens le regardaient, ne répondaient pas, une fois, deux fois. Il leur disait au revoir, il leur disait merci, etc. Et puis, très régulièrement, les gens le regardaient. C'est un Bulgare, hein. Il est chez lui, hein. Et les gens lui disaient, vous n'êtes pas d'ici, vous, hein ? Ah non, effectivement, je ne suis pas d'ici. Alors, il s'est dit un accent, vous imaginez l'accent du sud-ouest, l'accent gapensé. Bon, on peut entendre qu'il n'est pas du coin. Mais il lui disait, vous n'êtes pas d'ici, vous ? Non, non, je ne suis pas d'ici, effectivement. Mais vous venez d'où ? En fait, ça ne les intéressait même pas. Et lui s'interrogeait en disant, mais pourquoi vous dites ça ? Mais parce qu'ici, vous souriez, ici, vous souriez, ici, on ne sourit pas. Là, vous êtes heureux, ici, on n'est pas heureux. Et rien que ça signifiait à dire qu'il n'était pas du coin. Vous imaginez ? C'était un peu compliqué pour annoncer une bonne nouvelle. Avec le sourire, hein ? Vous n'allez pas leur annoncer que Jésus les aime avec une tête d'enterrement. Hein ? Ben non. Vous n'allez pas leur dire, tu es malade ? Mais tu sais, moi, je connais celui qui va te guérir avec une tête de 6 pieds de long, ça ne le fait pas. Ben, ça a été excessivement dur. Parce que les gens le considéraient comme quelqu'un de bizarre, d'étranger. Et grâce à Dieu, avec le temps, les choses ont évolué, et merci Seigneur, l'Évangile a fait son œuvre. Ce n'est pas lui qui a réussi à percer ce mur-là, mais c'est la parole qu'il véhiculait, c'est la parole qu'il annonçait qui a fait le travail. L'apôtre Paul a vécu des histoires assez surprenantes, d'ailleurs il les a enchaînées les unes après les autres, notamment lors d'un de ses voyages missionnaires. Et on trouve cela dans le livre des Actes au chapitre 17, je vous résume, on ne va pas lire les passages, mais il y a au moins trois publics différents qui vont être rencontrés. Le premier, dans la ville de Thessalonique. Et dans la ville de Thessalonique, je dirais que Paul a rencontré des réfractaires à l'Évangile. Il est arrivé, il a annoncé l'Évangile, il s'est installé pendant quelque temps, 3 samedis, il a pu discuter avec pas mal de monde. Il a établi que le Christ devait souffrir, ressusciter d'entre les morts. Et il leur a annoncé cette bonne nouvelle pour leur avenir, pour leur salut. Et pourquoi la vie changerait pas? Et pourquoi il n'y aurait pas une transformation? Est-ce qu'on peut pas changer les circonstances? Est-ce qu'on peut pas arrêter la malédiction? Est-ce qu'il n'est pas possible de changer de vie? Combien de fois vous vous êtes posé la question? L'apôtre Paul répond à cela en annonçant l'Évangile. Et il y a deux publics, il y a des juifs, l'apôtre Paul est un juif, il annonce cela à des gens qui sont de son peuple, mais il n'y a pas que des juifs, il y a des grecs. On est à Thessalonique, on est en Grèce, il y a des grecs qui sont là aussi et qui écoutent l'Évangile. Et la Bible dit que ceux qui auraient dû être les plus intéressés, ou tout du moins les plus sensibles, ces fameux juifs, sont totalement réfractaires. mais alors très dur. Hein. La Bible dit qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, beaucoup de femmes de qualité ont cru, ont été persuadées par le message. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, même pas de la population, de la populace, provoquèrent des attroupements, répandirent l'agitation dans la ville, et ils se portèrent à la maison de Jason. Et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Ça les chauffait pour eux. Hein. Jaloux, ces gens-là, totalement réfractaires. C'est étonnant. Ce sont ces Juifs qui auraient dû être les plus sensibles, puisqu'il est en train de leur parler de leur Dieu, du Créateur, de celui qui les avait choisis, appelés. Eh bien, ce sont ces mêmes Juifs qui ne sont pas du tout intéressés par le message. Alors, on peut se poser la question, pourquoi donc? Quand on regarde de quelle manière Jésus a annoncé la vérité à ces Juifs pratiquants qui, eux, habitaient en Palestine, Jérusalem et autres, on s'aperçoit qu'il n'a pas été commode avec eux, accommodant. Il a été très droit, très direct. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, vous avez une succession de reproches qui sont adressés à ces religieux. Et plusieurs fois, dans ce chapitre, il est dit « Malheur à vous, hypocrites ». J'ai connu beaucoup de gens qui acceptaient pas mal de reproches, mais celui-là, hypocrite, en général, ça plaît jamais. Bizarre, hein ? Ça plaît jamais, hein ? Les gens, on pourrait leur dire « Oh, tu as du caractère, hein. Oui, ben, je suis comme ça. » Hypocrite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis menteur, ça veut dire que je cache mon jeu, ça veut dire que je fais semblant, ça veut dire tout ça, effectivement. Hein. Et quand Jésus s'adresse à ces religieux, finalement, il les prend par défaut et il est en train de révéler ce que même caché au fond de leur cœur, ces gens-là avaient beaucoup à perdre. Ils avaient trouvé avec leur religion, avec leur pratique, une certaine position, un rang social, une apparence, des privilèges, pas mal d'avantages, et Jésus battait en brèche toutes ces choses-là. Et quand l'Évangile arrive dans cette ville de Thessalonique, ces gens-là sont jaloux. Le message ne leur convient pas, le message ne leur plaît pas. Et on pourrait se dire, eh bien peut-être qu'ils sont juste bornés, qu'ils ne comprennent pas. Je crains qu'ils aient bien compris, parce que comme argument pour s'opposer au message que l'apôtre Paul est en train d'annoncer, ils vont essayer de persuader plusieurs de les arrêter, de les mener devant les tribunaux, avec comme seul argument, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont là. Je vous le dis, et je pense que vous agiriez de la même manière. Je vous dis que si quelqu'un venait me trouver en me disant « j'ai rencontré quelqu'un », il a bouleversé la ville, il a bouleversé le monde, quand il parle, c'est incroyable, les gens sont surpris par terre, ils pleurent, ils sont émus, etc. Avant de juger, ben j'aimerais bien voir qui c'est quand même, non ? Vous seriez pas un peu curieux, vous ? Pas spécialement pour vous, si vous n'avez pas le sentiment d'avoir des besoins particuliers, mais quand même pour dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ils sont peut-être pas loin de savoir exactement qui est derrière ce message, ce fameux Jésus, comment avec un message vous bouleversez le monde. Certains ont essayé, on a essayé, Karl Marx a essayé, en Asie, beaucoup ont essayé, Bouddha et d'autres. Ils ont essayé, ils ont bouleversé leur monde. Mais il n'empêche que le temps passe et toutes les philosophies s'éteignent, les unes après les autres, et les idéaux s'effacent parce que la dure réalité est là. La différence, c'est que le message de l'Évangile ne vient pas confronter simplement une réalité pour dire on va donner un espèce d'exutoire, autre chose, un placebo. Le message de l'Évangile change notre réalité et nous donne de vivre, et nous le verrons en conclusion, avec comme une vie nouvelle, en nouveauté de vie. Ce message a été toujours le même, n'a jamais varié. Jésus sauve ceux qui sont dans l'abattement. Jésus délivre ceux qui sont liés par quelques malheurs. Jésus justifie le pécheur, la pécheresse. Jésus donne un avenir. Il l'a fait pour la femme adultère. Il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Il l'a fait pour un homme infirme en lui disant « Va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Il renverra la Samaritaine qui semble tout émue au-dedans d'elle en disant « J'ai l'impression d'avoir rencontré peut-être bien le Messie ». Il se passe des choses dans le cœur. Quand on entend le message de l'Évangile, Ce n'est pas pour rien que ces femmes de qualité, ces Grecs en multitude, ont trouvé dans le message la réponse à leurs besoins, parce que finalement, ce sont ces fameux ignorants qui sont interpellés, qui sont secoués, qui sont transpercés par la bonne nouvelle. Finalement, comme on l'a entendu déjà tout à l'heure, ils avaient soif de Dieu, comme ces enfants qui attendent la bouche ouverte, un peu de pain, quelque chose pour nourrir leur âme. Ils avaient soif de Dieu, ces gens-là. Ben, ils ont été désaltérés. Si vous avez soif de Dieu, soif que votre vie change, marre de la maladie, marre des souffrances, Jésus est là pour y répondre. Amen. Il est là pour y répondre. Alors, bien plus vite, le deuxième endroit, alors Paul est obligé de s'en aller, hein, évidemment, de quitter la ville. Certains ont été émus de cela. Ils arrivent dans un autre endroit qui s'appelle Béré. Béré. Et là, ceux qui sont là sont totalement prêts à écouter le message. Avant, la jalousie a fait qu'on les a expulsés. Et là, ils sont totalement prêts. Ce sont des Juifs, eux également. Mais ces Juifs sont exactement à l'inverse des autres. Eux, ils sont prêts. Ils ont soif. Mais ce n'est pas des ignorants. Ce n'est pas des ignorants. Et on a l'impression que ce message qui leur est annoncé, cette bonne nouvelle, vient compléter le puzzle qui est devant leurs yeux. Il y a quelques trous, il manque quelques connexions. Et là, on a l'impression que tout va se connecter. En fait, ce sont des gens sincères, ni plus ni moins, épris de justice et de vérité. Alors, ils ont pris le temps d'écouter, ils ont pris le temps de comparer, de vérifier, de rechercher la vérité. L'Évangile n'est pas adressé à ceux qui en ont assez de chercher, mais plutôt il est adressé à ceux qui en ont assez de chercher sans jamais trouver. Parce que chercher, c'est normal. On a tous une curiosité, on a tous besoin de savoir, de comprendre. Eh bien, le message répond à cela d'une façon extraordinaire. Si vous cherchez des évidences, je peux vous garantir que la Bible en regorge d'évidences. Si vous cherchez des preuves de la création, des preuves d'un Dieu de compassion, la Bible en regorge de preuves. Seulement, si vous ne lisez pas, si vous n'allez pas chercher, ben, vous ne les trouverez pas forcément. Et si vous cherchez des solutions, la Bible vous en propose beaucoup, beaucoup de solutions. La première d'entre toutes, et les premières se manifesteront de façon très simple, très claire, parce que vous n'avez pas besoin de choses compliquées, vous avez juste besoin de choses efficaces, réalisables, et dans l'Évangile, tout est efficace et réalisable. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qui nous soit hors de notre portée, ce n'est pas vrai. Il vous demande simplement de croire, et ça vous pouvez le faire. Croire, et ça c'est à votre portée, croire, et cela c'est simple. Alors ils ont pu rester un moment à Béré, mais pas bien longtemps, il faut déjà s'en aller et partir. Et je termine par une autre grande ville qui celle-ci est encore bien connue aujourd'hui, la ville d'Athènes. Athènes, une ville un petit peu particulière, je dirais que c'est la ville où il y a pas mal de ficanas. Vous savez ce que sont les ficanas? Ça c'est un terme un peu niçois. Sarthe. Ficanas, c'est le concierge, la concierge. C'est celui qui est derrière la vitre, qui veut toujours voir ce qui se passe, qui veut tout savoir, qui est capable de tout raconter, concierge, sans évidemment porter un préjugé sur le beau métier de concierge, ça revient, hein. Ça revient de plus en plus, et on a compris qu'on en avait bien besoin. Mais vous savez, ces personnes qui se satisfont de bruit, en fait, toujours envie de savoir quelque chose. Ça ne les concerne pas, ça ne va pas changer leur vie, mais ils veulent toujours savoir. Mais ça ne sert à rien qu'on te le dise. Dis-moi quand même. À Athènes, c'est un peu ça. Quand l'apôtre Paul va se retrouver à Athènes, il va aller dans les rues, sur les places, il va se promener en différents endroits, il va aller dans les synagogues, il va rencontrer des personnes, et plusieurs vont être surpris par le message, toujours le message. Les premiers ont été réfractaires, jaloux, on n'en veut pas de ton message. Les deuxièmes ont dit, mais on l'attendait depuis toujours, ce message. Et les troisièmes sont perplexes en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce message? Alors, à bien y regarder, on a demandé à Paul de venir au théâtre municipal et bien de raconter son histoire. Et ce qu'il va faire, il va se rendre dans le fameux Aréopage et il va annoncer l'Évangile. Quelle prédication! Mais alors, il est fin, l'apôtre Paul. Hein, il est intelligent. Il est très théologien, il sait bien dire les choses. Et il a amené l'Évangile d'une manière tellement évidente. Il commence en disant, en parcourant la ville, Je me suis rendu compte que vous avez des temples, des lieux de culte à tous les dieux de la création. J'en ai même trouvé un d'autel avec une inscription à un dieu inconnu. Vous imaginez l'absurdité quand même, hein ? Vous en adorez 25, 40, 72, 3 millions, et vous vous dites, et si on en avait oublié un ? Alors à un dieu inconnu. Et l'apôtre Paul s'est servi de ça en disant, bien regardez, le dieu inconnu, je vais vous l'annoncer cet après-midi. Je vais vous l'annoncer aujourd'hui. En fait, ils adoraient des tas de dieux qui n'en étaient pas, et le seul vrai Dieu, ils ne le connaissaient pas. C'est souvent comme ça pour nous aussi. Il leur a annoncé Christ. Il leur a annoncé la bonne nouvelle. Vous savez comment ça s'est terminé ? En eau de boudin, que de poisson pour la majorité. À un moment donné, il nous est dit que l'apôtre Paul parlera de l'œuvre de Christ. Parce que c'est bien ça l'essentiel. Pourquoi on parle de guérison aujourd'hui ? Pourquoi on parle de délivrance ? Parce que Jésus est mort à la croix, portant vos fautes, portant mes fautes, portant ma condamnation. Et en livrant sa vie à la croix, il dit à l'humanité tout entière, tout est accompli. Et à celui qui creuse un peu le message, il réalise que par cette œuvre à la croix, Jésus détruit la puissance du diable. Il détruit l'autorité du diable, il détruit son pouvoir tellement nuisible, amenant la maladie, amenant la mort, amenant l'échec, amenant la dépression, amenant le malheur sur la terre, et il réconcilie l'homme avec Dieu. C'est ce qu'il fait en donnant sa vie à la croix. Alors il annonce cette vérité, et pour que cette vérité soit permanente, il fallait aussi dire que Jésus est mort pour nos fautes, mais qu'il a vaincu la mort, parce que c'était encore une des conséquences du péché. Il a vaincu la mort en ressuscitant d'entre les morts. Et voilà pourquoi le message demeure, parce que Christ est vivant pour l'éternité. En entendant parler de résurrection, la Bible dit textuellement, « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. » Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois, une autre fois. Il y a ceux qui aiment le bruit, tous ceux qui aiment le bruit. Aujourd'hui, on discute de beaucoup de choses, on est surconnecté. D'ailleurs, si vous voulez déprimer, regardez la 15 ou la 16. C'est les chaînes d'actualité. Il n'y a que des catastrophes et on vous les répète en boucle tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure. Pas très heureux quand même, hein. Aujourd'hui, on est hyper connecté. Avec la profusion des chaînes de télé, comme c'est les JO, vous pouvez regarder plusieurs chaînes sportives qui vont vous montrer d'autres compétitions. Hier, j'ai zappé comme cela, on vous montrait du basket, on vous montrait du tir à l'arc, on vous montrait je ne sais plus quoi encore. Mais malheur, si vous aimez les trois sports, vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Avant, vous n'aviez pas le choix, c'était le tir à l'arc. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il y avait 3 chaînes, 6 chaînes, 12 chaînes. Il n'y en avait qu'une qui faisait du sport. Aujourd'hui, on est hyper connecté. On a tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on est plus heureux ? Je crains qu'on ne réfléchisse pas sur les bonnes questions parce qu'on préfère le bruit. Et aujourd'hui, je crains que tout ce que l'on nous donne comme information soit du bruit. Et faire passer le message de l'Évangile à travers tout ce bruit, pas facile. Et ça demeure le seul message authentique et vrai. À Athènes, une caractéristique, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez compris, il nous est dit que tous ces gens-là prenaient leur temps à écouter ou à entendre, à dire des nouvelles. Des nouvelles. Voilà, on a appris, il s'est passé telle et telle chose ici et là, etc. Je me dis que quelquefois, quand les gens vivent dans le bruit et ne supportent plus le silence, c'est une façon pour ne pas réfléchir, certainement pas pour s'arrêter sur soi. C'est un moyen, certainement, pour éviter de se remettre en question, se remettre en cause. On évite cela et on ne se pose jamais les bonnes questions. Et donc, on n'a pas besoin d'y répondre, puisqu'on ne se les pose pas. J'aimerais vous poser la seule vraie question utile cet après-midi. Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes vraiment heureux ? Et si vous êtes sincère avec vous-même, allez plus loin, qui vous procure ce bonheur ? Si c'est quelqu'un de votre famille, si c'est vous-même, on peut être heureux de soi, hein. Si c'est la société, si c'est votre travail, si c'est un voyage que vous prévoyez, etc., ça ne suffit pas. Il faut que votre bonheur vienne de plus haut. Il faut qu'il vienne de vraiment plus haut. Il faut qu'il vienne du ciel. Si votre bonheur, si vous dites « je suis heureux », mais sans Dieu, il vous manque l'essentiel. Et je crains que demain vous soyez au bord de la falaise et que le pas d'après soit une chute et que vous en souffriez. Alors pour éviter ça, Paul et d'autres ont décidé d'être missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle partout et apporter le bonheur là où il n'est pas. Cet après-midi, vous pouvez trouver le bonheur. Paul dira que ce message qu'il annonçait n'avait qu'un seul but, que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Ce que je vous disais tout à l'heure, nouveauté de vie. Quelquefois, on aimerait bien vivre ailleurs, être quelqu'un d'autre, parler autrement, vivre à un autre siècle. Ce n'est pas ça l'essentiel. Est-ce que Dieu va pouvoir transformer votre cœur et votre vie? Est-ce que vous allez le laisser faire? Est-ce que vous allez laisser toucher votre vie et changer votre vie tout entière? Est-ce qu'on pourrait prier pendant quelques instants, justement faire silence en nos cœurs et réfléchir un moment et demander à Dieu sa bénédiction sur ces instants tout au long de cette journée et cet après-midi principalement, si vous n'étiez pas là ce matin, mais déjà depuis le début de cet après-midi, vous avez entendu des chants qui peuvent quand même secouer, interpeller quand on entend qu'il n'y a pas d'autre moyen de trouver le bonheur que de se confier en Dieu. Tout ce que nous avons entendu par notre frère missionnaire Romuald nous rappelle que l'Évangile traverse les frontières. Ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de manière de le dire. Le message n'a jamais changé. Et enfin, souvenez-vous cette parole de Jésus, « Allez par tout le monde, et celui qui croira, il sera sauvé. » Vous avez besoin d'être sauvé. Vous avez besoin de goûter au salut éternel. Vous avez besoin d'être délivré de vos tourments, de vos malheurs, de vos fragilités, de vos douleurs. Vous avez besoin d'être libre, libre enfin. Alors on va croire, et vous allez croire, que le Seigneur qui est présent dans ce lieu va agir en votre faveur. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur humble, parce que dans le fond, nous ne pouvons pas prétendre à autre chose qu'à ta grâce. Et si tu nous fais grâce, alors nous avons réalisé que nous ne méritions rien. Mais quel bonheur d'être aimé par toi. Quelle chance, quel privilège d'être aimé par un Dieu si grand, si puissant, mais tellement juste qu'il est capable de nous aimer parce qu'il a fallu qu'il donne ce qu'il avait de meilleur pour permettre la communication aujourd'hui. Merci d'avoir livré Jésus à ma place. Merci d'avoir donné ce qui était le plus cher pour que mes péchés soient pardonnés. Je prie pour chacun d'entre nous. Je prie pour ceux qui cet après-midi dans ce lieu raisonnablement sont incapables de dire s'ils sont vraiment heureux parce qu'il y a un vide dans leur cœur. Et j'aimerais que tu viennes combler ce vide maintenant. J'aimerais que ces amis comprennent que c'est ton message, c'est ta parole, c'est l'Évangile qui va produire ce bien-être en eux. C'est ta présence à leur côté qui va les rassurer. C'est d'être près d'eux qui changera tout. C'est que tu sois, que tu accompagnes leur vie, que tu sois à leur côté jour, heure après heure, seconde après seconde. C'est ça qui changera tout. Alors je prie que tu les bénisses maintenant et que cet après-midi n'ait pas été pour rien, mais que ta grâce les accompagne. Merci de les bénir. Merci de les toucher encore et de les relever dans ton nom précieux. Amen.